Bonjour à toutes et à tous. Et je peux le dire, c'est pour moi une grande joie d'être devant vous aujourd'hui. Voilà déjà quelques temps que j'ai pas prêché. Plus d'un mois. Et du coup, c'est vrai que ça commençait un peu à me manquer. Alors, je peux m'en vouloir qu'à moi-même, étant donné que c'est moi qui fais le planning. Voilà. Le week-end passé, nous sommes allés au marché rue pour le week-end famille. Et je veux remercier Marc Bachmann pour l'organisation. Nous sommes allés dans un chalet en montagne. Tout s'est bien passé. J'ai dû user de ruses pour faire venir ma femme et mon fils. Parce que tout d'abord, je lui ai dit « Ah, mais c'est un joli chalet, il y a 10 minutes de marche, ça va facilement. » Ensuite, je lui ai dit « Oh, c'est en fait peut-être 30 minutes de marche. » Quelques temps après, ah, peut-être qu'il s'agirait qu'il n'y ait pas d'eau potable et pas d'électricité. Et ensuite, finalement, ces deux grands dortoirs où on peut dormir. Non, tout s'est bien passé. Alors, c'était un peu spartiate, comme vous avez pu l'entendre. Mais ça a vraiment permis aux gens de discuter, de se rencontrer, aux enfants de jouer ensemble et aux parents d'avoir de bonnes et profondes discussions. Et donc, c'est pour ça que j'étais pas là dimanche passé. Voilà. C'est pas que je voulais pas venir, c'est que je ne pouvais pas venir. Et nous continuons notre série sur 1 Timothée. Comme ça fait 5 semaines que j'ai prêché sur 1 Timothée 1, je vous accorde une petite récapitulation de ce que j'avais dit. J'avais mis en avant cette association qui est faite à 3 reprises dans ce livre, dans cette lettre, entre la foi et la conscience. Et de cette association, dont on tire la célèbre phrase « le beau combat de la foi », il s'agit en fait le beau combat d'une foi sincère et d'une conscience pure. La conscience est vitale pour ma vie de foi. Je ne peux pas malmener ma conscience et en même temps vivre une foi épanouie. Les deux vont de pair. Et donc, je vous avais encouragé à prendre soin de votre conscience sans pour autant la croire qu'elle était infaillible. Et donc, aujourd'hui, nous tournons et nous lisons 1 Timothée 2, les versets 1 à 7. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au moment voulu et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité devant Christ, je ne mens pas, chargé d'enseigner les non-juifs dans la foi et la vérité. Vous êtes-vous déjà posé la question, à quoi ça sert de prier? En fait, ça sert à quoi de prier? Moi, j'ai été confronté, on a animé pendant plusieurs années les cours Alpha. Et c'était la dernière année du module de catéchisme. Et donc j'avais des jeunes autour des 14-15 ans. Et il y avait la fameuse soirée sur la prière. Et dans le petit groupe de discussion, Constance se met à réfléchir à quoi ça sert de prier. C'est évident, parce que c'est bien de prier. Mais lorsqu'on se met à réfléchir, la réponse est peut-être un peu moins évidente. En effet, Dieu sait tout. Il n'a pas besoin que je l'informe en priant. Et j'irai même plus loin, Dieu, il aime parfaitement. Donc il n'a pas besoin que je lui demande pour m'aimer. Dieu veut me conduire. Donc j'ai pas besoin de le prier pour être conduit. Et donc c'est ces questions simples que de jeunes personnes m'ont posées qui m'ont fait réfléchir. La prière n'est pas une œuvre. C'est pas en priant que Dieu m'aime plus. Et pourtant, et on voit bien dans ce texte, la prière est essentielle à notre vie de foi. Et pour vous répondre à cette question, je pense qu'on prie plus. Pourquoi prier ? On prie plus parce que j'ai besoin de prier que parce que Dieu a besoin de ma prière. Je prie plus parce que j'ai besoin de prière, parce que je suis transformé par mes prières, que Dieu a besoin de les entendre. Et on le voit bien ici, la mission de Timothée, que je vous rappelle, qui est cette mission de renouveler et d'être à Éphèse pour enseigner, pour arrêter les hérésies, pour choisir des responsables corrects. Paul met en premier lieu cette prière, il le dit, « J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières et des supplications et des prières de reconnaissance pour tous les hommes. » Et ça, c'est notre premier appel en tant qu'Église, en tant que croyants. Nous sommes appelés à adresser à Dieu des prières pour tout le monde. Pas uniquement pour les croyants, pas uniquement pour ceux que j'aime bien, mais pour tout le monde. Et il va ajouter, ou plutôt il va préciser, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité. Alors ici, il y a plusieurs interprétations possibles. Certaines personnes disent que les personnes qui reçoivent l'autorité sont justement ce symbole de l'extrême, la figure de l'extrême. C'est-à-dire, s'il est possible de prier pour les autorités, s'il est possible de prier pour des politiciens, alors il est possible de prier pour tout le monde, pour tous les criminels. Alors bien que je trouve humoristique cette interprétation, je ne pense pas qu'ici c'est le cas. Il le précise lui-même dans le texte, « afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et en tout respect ». Au travers des lois, qui sont appliquées, qui sont écrites, notre conscience peut être mise à rude épreuve. C'est possible qu'une loi vienne confronter notre conscience. Et c'est en particulier le cas lorsque Paul écrit à Timothée. Il faut adorer l'empereur pour pouvoir faire du commerce. Il faut se tourner vers la figure impériale. Et donc, un croyant ne peut pas faire du commerce à l'époque de Paul. Avec des grandes persécutions, les chrétiens vont être pourchassés. Et notamment à Éphèse, parce que la prédication de Paul met en péril... La prédication de Paul met en péril la vente de petites statuettes d'idoles. Ces derniers, ces confectionneurs, vont l'agresser en Éphèse. Donc on voit que les personnages publics et les autorités peuvent mettre à mal notre conscience. Et c'est là pourquoi il faut prier pour eux. Et là, je pense tout particulièrement, je ne sais pas si vous avez vu récemment, la commune de Renan a décidé de changer l'octroi de la petite chapelle qui se trouve proche de la gare, dans un très bel article où ils expliquent que cette chapelle est vide depuis des années et qu'ils veulent la réaffecter. Alors, on a tous été surpris, étant donné qu'il y a une communauté de la Frée qui se réunit dans cette chapelle. Et non seulement il y a une communauté, mais ça fait des années et des années qu'ils y sont là. Et du coup, leur culte, j'ai discuté ce jeudi avec le pasteur de Renan. Je lui ai dit, ah, mais c'est quoi cette histoire-là? Ils l'ont appris dans les médias. C'est par l'article qu'ils ont appris que la chapelle allait être réaffectée. Donc, on peut prier pour eux, parce qu'ils vont être bientôt confrontés, soit ils arrivent à garder la chapelle, soit ils vont devoir trouver un nouveau lieu de réunion, un lieu de culte. Et on voit là cette nécessité, non seulement de prier, mais de garder un lien, et un bon lien, avec les autorités. Parce qu'elles peuvent nous permettre de mieux célébrer Dieu. Elles peuvent être un frein dans notre culte que nous rendons à Dieu. Et c'est aussi pour ça que Villard a décidé de continuer cette démarche d'accréditation, de validation de la part du canton. C'est justement pour pouvoir exister, pour pouvoir dire non, nous on veut vous servir et être à votre service, on veut un partenariat. Et donc, c'est pas parce que les politiciens sont les pires des figures qu'il faut prier pour eux, mais parce que ils peuvent avoir un poids et ils peuvent nous aider à rendre un culte à Dieu. Ils peuvent nous aider à rendre gloire à Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut prier pour eux. Mais Paul va plus loin dans notre texte. Paul va plus loin et la raison pour laquelle il faut prier pour tous les hommes et en particulier pour les autorités politiques, c'est parce que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous soient sauvés. Alors on se trouve sûrement face à l'un des passages les plus contrariants pour les adeptes de la prédestination. Alors je me mets dans le panier. Mais c'est vrai que lorsqu'on lit « Dieu veut que tous soient sauvés », on se met à réfléchir. Ah, et ceux qui pensent à la prédestination se diront « Ah, mais ici c'est écrit que Dieu veut que tous soient sauvés, mais il veut que des gens de toutes les ethnies ou de tous les peuples ou de toutes les conditions sociales soient sauvés. » Non, le texte ici est très clair. Et j'ai beaucoup aimé l'honnêteté d'un prédicateur anglais, Charles Spurgeon, lorsqu'il parlait de ce passage. Tout comme moi, il a dit « Je crois en la prédestination. » Et pourtant, je refuse que mon système de pensée, que mon système théologique modifie quoi que ce soit dans la Bible. Je refuse de modifier la parole de Dieu par rapport à quelque chose que je crois. Et même si je suis convaincu qu'il y a une élection, au travers de ce texte, je suis aussi convaincu que Dieu veut que tous soient sauvés. Et c'est là où je pense que la prière entre en jeu. Lorsque je prie la parole de Dieu, lorsque je prie que Dieu désire que tous soient sauvés, alors forcément, je renouvelle ma pensée. Et forcément, je renouvelle mon regard. Et lorsque je regarde autour de moi, lorsque je regarde mon prochain, lorsque je regarde mon voisin, je vois en lui une personne, un individu que Dieu veut sauver. Ça ne veut pas dire que je dois lui imposer ce salut. Ça ne veut pas dire que je dois l'agacer avec ce salut. Mais ça veut dire que je dois le regarder comme quelqu'un que Dieu veut sauver. Et ça change mon regard. Pourquoi est-ce qu'il faut prier ? Parce que prier transforme mon regard. Prier transforme mon regard sur les situations, il change ma perspective. Mais le texte va même plus loin. Au verset 5, Paul écrit « En effet, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Alors ça, c'est encore plus difficile lorsqu'on pense à la prédestination. La prédestination, c'est quoi en fait ? La prédestination, c'est croire qu'avant la création du monde, Dieu, dans un décret éternel, a choisi, a élu les gens qui seraient sauvés, les gens qui seraient au bénéfice de sa grâce. Avant même de créer le monde, Dieu avait déjà élu ceux qui seraient au bénéfice de sa grâce. Et généralement, on utilise les cinq points, qu'on appelle les cinq points du calvinisme. Le tulip, c'est la dépravation totale. L'homme est totalement dépravé dès sa naissance. Ensuite, on a unconditional grace, ou love, un amour inconditionnel, une grâce inconditionnelle. Et on a le fameux L, limited atonement. On dirait en français, on dirait rédemption particulière. J'explique ce point, c'est que Jésus est mort que pour ceux qui sont sauvés, parce que s'il était mort pour tout le monde, alors tout le monde serait sauvé. Et ça prend un peu le raisonnement de dire, je sais pas si je vous perds, mais si Jésus était mort pour tout le monde, mais que tout le monde n'était pas sauvé, c'est comme si Dieu avait fait un échec. C'est comme si Dieu avait échoué, comme si son œuvre avait raté en quelque sorte. Et comme Dieu ne peut pas rater, alors on part du principe que Jésus s'est offert seulement pour ceux qui vont recevoir sa grâce. Et pourtant, le texte que nous venons de lire le dit de nouveau très clairement. Jésus-Christ qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Alors, je ne vais pas réussir à élucider ce paradoxe, je ne vais pas réussir à élucider cette question. Et pourtant, moi, ce qui m'a sauté aux yeux en lisant ce texte, c'est que nous avons tous le même Sauveur. Que je sois élu, pas élu, que je croie qu'il y ait des élus ou pas, nous avons tous le même Sauveur. Il n'y a pas un Sauveur différent pour en fonction de notre catégorie sociale, en fonction de notre ethnie, de notre type, de notre amour, même de notre pensée théologique. Nous avons tous un seul et même Sauveur. Pour Paul, c'est ce qui nous unit. Et c'est non seulement ce qui nous unit, mais c'est aussi la raison pour laquelle on doit prier pour tout le monde. Parce que Christ s'est donné pour tout le monde. Et c'est frappant qu'il mette ça. Parce qu'il aurait pu dire, Paul aurait pu se référer à la création et dire, comme on a tous été créés par Dieu, alors on doit prier pour tout le monde. Paul aurait pu dire, comme on a tous des pieds, des mains et une tête, alors on doit prier pour tout le monde. Non. Ici, Paul se tourne vers le Christ. Et c'est Jésus-Christ qui nous unit. Et c'est parce que Jésus-Christ s'est donné entièrement pour tous que nous sommes appelés à prier pour tout le monde. Et j'aimerais conclure. Pourquoi prier ? Parce que prier, parce qu'en priant, je me tourne vers Dieu. Et en me tournant vers Dieu, la distance qui sépare mes pensées des siennes diminue. Lorsque je m'adresse à Dieu, lorsque je le prie quotidiennement, lorsque je le prie régulièrement, je suis transformé par ses paroles. Je suis transformé par la pensée du Christ. Et non seulement je suis transformé, mais aussi je change de perspective. Et je vois mon prochain, je vois mon voisin, je vois celui que je côtoie comme quelqu'un pour qui Dieu a tout donné. Dieu s'est fait homme, et en se faisant homme, il ne s'est pas arrêté là, mais il s'est donné entièrement, radicalement, jusqu'au bout. Et ce matin, c'est ça, c'est cette perspective que je veux mettre en avant. Regardons-nous les uns comme les autres. Regardons-nous tous comme des gens pour qui Dieu a tout donné. Regardons-nous comme ceux pour qui Dieu a donné sa vie. Je vais compléter, pour qui Jésus-Christ a donné sa vie. Et pour une communauté comme Éphèse, qui passait par des temps troubles, qui passait par des débats, par des discussions intenses, je dirais même des conflits, Paul commence par leur rappeler cela. Nous sommes tous des frères et sœurs, et nous avons tous été rachetés par le même Sauveur, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est en fait le fondement de notre unité. Jésus-Christ est le fondement de notre amour et de notre communion. Et donc je vais nous encourager à prier dans ce sens-là. Prions les uns pour les autres. Prions même pour ceux qui ne pensent pas comme nous. Prions pour ceux qui ne se conduisent pas comme nous. Prions même pour ceux qui ne sont pas croyants. Parce que Dieu peut transformer notre cœur. Et parce que Dieu est mort pour tous. Amen.